France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20 et l'excitation est à son maximum pour les plus nippophiles de nos auditeurs. Les créateurs de Goldorak et Albator sont en France, mais oui, invités à la Japan Expo, l'un des plus grands salons au monde consacré à la culture japonaise. 4 jours de dédicaces, de concerts, de conférences, de compétitions de jeux vidéo, de démonstrations d'arts martiaux et j'en passe. La Japan Expo, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au parc des expositions de Villepinte, près de Paris. Bonjour Thomas Sirdet.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de cette Japan Expo, qui fête ses 20 ans cette année, et elle a bien grandi.
Elle a effectivement bien grandi. En 20 ans, on est passé d'un événement où on voulait se réunir entre gens qui aiment bien le Japon, mais à une époque où c'était pas accepté partout, à un des événements culturels importants en France, et on est le rendez-vous début juillet pour se retrouver entre fans.
Et c'est même le 3e plus gros salon de France en termes de fréquentation, j'ai vu ça, derrière le Salon de l'Agriculture et le Mondial de l'Auto.
Voilà, si on prend, parce que c'est très compact, on est en 4 jours, et si on prend la visite moyenne quotidienne, effectivement, on devient le 3e salon de France, qui a été une grande surprise pour nous. Ça nous a fait plaisir, mais ça marque surtout le fait qu'aujourd'hui, les contenus japonais et le Japon de manière générale est quand même partout.
Et comment vous l'expliquez? D'où vient cet engouement français pour la culture japonaise?
Alors, on peut voir plein de choses. Beaucoup de gens voient le japonisme, vous savez, au début du 20e siècle, fin du 19e, où dès que le Japon s'est ouvert, en fait, il y a eu des connexions culturelles qui se sont créées entre la France et le Japon. Et évidemment, pour nos générations, c'est plus le pouvoir fulgurant de la télévision qui fait qu'à la fin des années 70-80, on s'est retrouvé avec des générations entières d'enfants qui ont été exposés aux dessins animés japonais. Vous parliez de Goldorak ou d'Albator, qui étaient effectivement les premiers. Puis ça a duré, puis on est passé au manga, ça a créé une évolution qui a donné un intérêt en fait pour le Japon. C'est-à-dire que les premiers dessins animés, on savait pas forcément que c'était japonais. Puis on a découvert que c'était japonais. Puis on a découvert qu'il y avait des mangas qui étaient à l'origine de ces dessins animés. Le livre, en France, on est un pays de la BD, donc c'est très accepté. Donc d'un coup, c'était normal de pouvoir lire des contenus japonais. Et puis derrière, ça a ouvert la passion pour la nourriture, l'art de vivre.
Et les Japonais savent qu'il y a un tel engouement pour leur culture en France?
Maintenant, oui. Ça a été long à leur expliquer. Parce que le Japon est un pays, c'est une île, donc ils regardent pas toujours ce qui se passe à l'extérieur. Et il a fallu leur prouver, par exemple, quand vous allez voir des gens comme Go Nagai, le créateur de Goldorak, et que vous lui dites « Mais vous savez, vous devriez venir chez nous, vous avez quelques fans. » Et la première réponse est souvent de nous dire « Ah bon, vous êtes sûr? Parce que si je viens qu'il n'y a personne qui est intéressé par ce que tu fais, pourquoi je me déplacerai ?»
Ah oui, il ne se rend pas compte, vraiment.
Voilà, donc on peut leur dire assez facilement « Vous inquiétez pas.
» Mais au salon, ce que vous le disiez, c'est aussi un phénomène de génération, la génération Club Dorothée, pour dire les choses simplement. Ça veut dire qu'il y a grosso modo qu'une seule tranche d'âge parmi vos visiteurs autour de la quarantaine?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, après, ça a suivi. Ça veut dire que d'abord, on a eu la démonstration du pouvoir de la télé, pour nos générations, autour de la quarantaine. Puis, il y a eu Internet. Et ça, ça a été le deuxième grand boom. Donc, aujourd'hui, on a un festival qui a un âge moyen de 23 ans. Donc, les générations se sont assez renouvelées. Oui. On a la chance, comme ça, d'avoir toujours des nouveaux fans tous les ans. Mais par contre, on a aussi des fans de la première heure, des gens de mon âge, qui ont fondé des familles. Et du coup, vous avez sur le festival énormément de familles comme ça qui se promènent. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est pas un festival où on a l'impression que les enfants traînent les parents derrière eux ou que l'inverse. C'est on y va en famille et chacun trouve chaussure à son pied.
Vous dites 23 ans d'âge moyen, mais quand on vient à la Japan Expo, on a de nouveau 10 ans en fait. C'est quand même très ludique, on se prend pas au sérieux, on mange des bonbons Pikachu, on découvre plein de choses, certains viennent déguisés même.
Voilà, le cosplay est effectivement un phénomène très très important dans le festival.
Donc cosplay, faut l'expliquer. Hein.
Les gens s'habillent dans leur personnage de dessin animé, de jeux vidéo ou de manga préféré et pendant quelques heures, pendant quelques jours, vont essayer d'être le personnage, de le jouer, de s'activer. C'est un petit peu comme un carnaval si on devait comparer, où on peut pendant quelques heures, quelques jours, vraiment être dans sa communauté. Entre fans, se reconnaître aussi entre soi, parce que ah tiens, toi t'étais le personnage.
Et vous êtes lequel?
Moi je suis l'organisateur.
Donc pas de déguisement?
Bah si, regardez.
Donc hommage aux séries, aux dessins animés hein, qui ont permis à la culture japonaise de se développer en France. On le disait, il y a le créateur d'Albator, de Goldorak. Il y a aussi le casting complet des Bioman. Ils sont tous là, hein, Force Rouge, Vert, tout ça.
Les cinq sont là et sont toujours très très vaillants. On a été agréablement surpris. Ça fait partie des 20 ans, au sens où on a voulu un petit peu revenir aux sources, montrer aux jeunes de 23 ans, parce que eux à l'époque n'ont pas vu ça à la télé, ce qui se passait. Donc avec Goldorak et Albator, on couvre bien toute la partie manga et dessin animé, et on voulait parler d'autres choses qui étaient le Sentai, donc les séries en prise de vue réelle, et Bioman étant la première et la plus connue, des plus marquantes. Et c'est intéressant parce que ça a aussi fait partie de ce qui a permis de se rendre compte que c'était japonais, parce qu'autant les dessins animés, c'est du dessin, donc ça peut être n'importe quoi. Là, vous aviez des acteurs, des actrices japonais. Ça a été le premier pas vers se demander, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi les grands buildings, au fond, ça ressemble pas à Paris, où on est.
Et en grandissant, votre festival s'est élargi aussi, ça va bien au-delà des mangas, des dessins animés, des séries, c'est vraiment toute la culture japonaise qui est mise à l'honneur.
Exactement, on a 140 000 m² et dessus on présente le manga, le dessin animé, le jeu vidéo, la musique bien sûr, donc toute la partie pop culture, mais aussi la culture traditionnelle. On a 80 artisans qui viennent du Japon pour présenter leur art.
Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ?
Vous avez aussi bien l'art des couteaux que de la calligraphie, que l'art des draperies, la peinture sur, vous savez, le papier japonais, qui est un papier qui est très très beau. On trouve vraiment de tout. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Tomita, qui est un créateur de kimono et qui est à Kyoto, donc la capitale historique du Japon, impériale. Il vient et en fait c'est la quatrième ou cinquième génération de créateurs de kimono dans sa famille, et donc ils ont un savoir-faire incroyable, et il vient présenter ça et il va habiller des gens en kimono. Donc vous pouvez venir vous faire habiller en kimono le plus traditionnel qui soit, avec toutes les méthodes les plus traditionnelles qui soient, et vraiment rentrer dans un pan très profond en fait de la culture japonaise. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir à la fois de la pop culture, de la culture traditionnelle et aussi de l'art de vivre. Donc on parlait de nourriture, bien sûr c'est très important, mais aussi
japonaise, c'est pas que les sushis, faut le rappeler aussi.
Et la cuisine japonaise, c'est loin d'être les sushis, même si c'est comme ça qu'on les connaît
évidemment.
Le mieux. Mais aujourd'hui sur Japan Expo, vous pouvez goûter les takoyaki, vous pouvez goûter les nouilles, il y a vraiment de tout.
Et il y a aussi des concerts.
Et il y a des concerts. On a deux scènes de musique, une qui s'appelle Karasu, une qui s'appelle Tsubame, où on va écouter à la fois de la musique de dessin animé, mais aussi du rock, du R&B, parce qu'en fait, le Japon, c'est le deuxième producteur de musique au monde après les États-Unis. Ça, personne ne le sait.
Ah non, vous me l'apprenez.
Mais ça reste vraiment chez eux. Alors, du coup, on essaye de présenter toute cette variété musicale sur le festival.
Que retenez-vous de ces 20 ans ? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué ?
Oh, c'est une question très difficile.
Rencontre, je sais pas. Ou un absent, justement, quelqu'un que vous aimeriez faire venir et qui vous résiste.
On a une bucket list, vous savez, de gens qu'on check à chaque fois qu'on réussit à les faire venir. Non, ce qui nous a marqué, c'est vraiment cette espèce de virage qu'on a eu quand on a commencé à avoir un beau festival en France et à être accepté au Japon, où on n'avait plus besoin d'expliquer à chaque fois ce qu'était Japan Expo, pourquoi ça valait le coup de venir, et où les gens disent « Ah oui, je connais, c'est à Paris, c'est ça ». Et ça, ça a été vraiment un processus hyper intéressant pour nous.
Et une dernière question, est-ce qu'une France Expo au Japon, ça marcherait ?
Ça marcherait, mais ça devrait être organisé par des Japonais qui aiment la France.
Merci beaucoup Thomas Sirdé, fondateur, cofondateur de cette Japan Expo. C'est pendant 4 jours au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris, et vous étiez l'invité du 5-7.